Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est sa complice des anciens débats de l'ombre d'un doute que Franck Ferrand reçoit cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. Clémentine Portier-Kaltenbach possède l'art de rendre l'histoire truculente, volontiers souriante, même lorsqu'on aborde des sujets aussi sombres que les embrouilles familiales. Je suis même sûr que Clémentine va nous dérider en évoquant un certain nombre de pères indignes de l'histoire. Ça m'autorise à évoquer en préambule un sujet qui confine au sordide, les rapports fatal entre le roi d'Espagne, Philippe II, et son fils, Don Carlos.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Fabrice via la page Facebook de l'émission. Il s'interroge sur les origines des montagnes russes.
Pour un peu, je demanderai presque à Clémentine de répondre à ma place à cette question. Nous allons voir ça. Ça me paraît une bonne idée. Pour le moment, nous allons nous faufiler dans les sombres coulisses de l'Espagne du siècle d'or.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Carlos, on a fait de ce prince une sorte de martyr, et même, chez certains auteurs, un véritable héros chevaleresque. Alors, les fans de la série Game of Thrones pourront assez facilement assimiler ce personnage de Don Carlos au terrible roi Joffrey, vous savez, ce jeune roi cruel, issu d'une union consanguine et qui essaie en quelque sorte son pouvoir malhabile par la cruauté qu'il exerce sur son entourage. Eh bien, d'une façon générale, ce personnage ne pouvait qu'inciter les auteurs à... J'allais dire à exagérer, c'est ce qu'a fait Schiller, évidemment, dans son célèbre drame en 5 actes. Et puis, il y a Verdi. Vous imaginez ce que peut être l'Espagne de Philippe II. Alors bon, Philippe II, ce personnage rigide, ce roi terrifiant, si je puis dire, qui avait hérité toute la dureté, toute l'austérité de son père, l'empereur Charles Quint, mais qui avait en plus une sorte de raideur morale et religieuse. Il règne sur un immense territoire, les Espagnes en tant que telles, bien entendu, mais aussi, bien sûr, les possessions de la botte italique, hein, la Sicile, Naples, le Portugal à l'époque, et puis bien entendu toute cette province des Pays-Bas qui à l'époque est très agitée. On est dans une période de révolte des Pays-Bas en partie protestants contre la couronne d'Espagne et contre les catholiques. Alors c'est dans ce contexte-là qu'est né Don Carlos. Il est né en juillet 1545. Il est d'emblée nommé prince des Asturies. Il est quand même le petit-fils de Charles Quint. Il est le fils de ce roi Philippe II et de Marie-Manuel de Portugal. Charles Quint n'abdique qu'en 1555, c'est-à-dire que pendant 10 ans, son père est simplement le prince héritier. Alors, la pauvre reine va mourir en couche 3 jours seulement après la naissance de Don Carlos, et ça, c'est presque récurrent dans l'histoire. Ces enfants qui sont réputés avoir tué leur mère, si l'on peut dire, à la naissance, vont souvent avoir du mal à trouver leur place et à se construire. Il est confié à sa tante Jeanne, qui est seulement son aînée de 10 ans. Et d'ailleurs, 7 ans plus tard, elle-même va épouser Jean-Emmanuel de Portugal. Et ça va créer chez le petit garçon un sentiment d'abandon, exacerbé par une jalousie terrible qui avait déjà été constatée depuis toujours dans ce caractère un peu difficile. Il ne retournera lui-même auprès de son père qu'à ses 14 ans. Alors, il est évidemment l'héritier du royaume le plus puissant de l'époque. Mais on se demande s'il sera à la hauteur de la tâche qui l'attend. D'abord, c'est un enfant rachitique, un enfant difficile, nerveux, agité de tremblements. Il a des tics, vous savez, il bégaye, il est atteint de crises d'épilepsie et il fait preuve d'une véritable instabilité mentale avec des accès de fièvre, avec aussi des accès de colère qui pourraient confiner à la démence. Est-ce que c'est le fruit de la consanguinité? C'est tout à fait possible. Elle est très répandue, cette consanguinité, chez des Habsbourg où l'on a coutume de se marier entre cousins, entre oncles et nièces, etc. Quand c'est pas presque entre frères et sœurs. Ça s'explique par la volonté des rois d'épouser des princesses de sang royal, bien entendu. Alors, en plus, il faut que ce soient des princesses qui sont catholiques. On est chez les Habsbourg, bien entendu. Et dans une Europe qui devient de plus en plus protestante, il y a de moins en moins de princesses catholiques disponibles. Donc, il y a sans doute cette consanguinité qui, chez les Habsbourg, atteint un stade très, très élevé et même préoccupant et qui va provoquer la naissance d'un certain nombre d'enfants en difficulté. Il n'y a pas que le petit Charles, que le Don Carlos. Il n'a que 4 arrière-grands-parents, par exemple, quand vous regardez Don Carlos, c'est bizarre, ça. Vous voyez le degré de consanguinité. Normalement, un enfant a 8 arrière-grands-parents. Lui, il n'en a 4. Vous voyez un peu. Tous ses parents sont cousins germains, finalement. Alors, à peine âgé de 10 ans, il va manifester des sautes d'humeur complètement intolérables. D'abord, il va condamner son page à mort. Vous imaginez, il a été irrité par l'attitude du serviteur. Eh bien, il exige qu'il soit pendu. Alors, on se dit, oh là là, il ne faut pas trop... C'est une petite terreur, hein, ce Don Carlos. Les serviteurs n'osent pas trop aller contre ses ordres, ce qui fait qu'on fait installer une potence, mais on va tromper l'enfant. On procède, en fait, de nuit et on va remplacer le malheureux page par un mannequin de chiffon, évidemment. Une autre fois, tandis que le jeune prince est en train de se promener dans les rues de Madrid, un pauvre bougre s'avise de vider un pot de chambre, vous savez, par sa fenêtre. Eh oui, ça se faisait beaucoup à l'époque. Et évidemment, il éclabousse un peu le prince. Immédiatement, alors il faut imaginer la fureur du gamin qui exige qu'on brûle la maison et tous les habitants avec. Alors, inutile de vous dire qu'on va trouver là encore un stratagème. On va faire croire qu'un prêtre se trouve à l'intérieur de la maison et que brûler une telle maison serait un sacrilège. Vous voyez un peu à quels efforts d'imagination la folie précoce de Don Carlos contraint ceux qui l'entourent et le servent. Le jeune homme prend plaisir par ailleurs et de plus en plus à torturer les animaux. Il y a un épisode assez dramatique. Il s'enferme pendant 5 heures d'affilée dans les écuries et lorsqu'il sort, il a laissé derrière lui une vingtaine de chevaux dans un état déplorable, hein, blessé, sanguinolent. La propre monture de son père n'y survivra pas. Charles Quint aurait été marqué par le caractère de son petit-fils. Il me semble qu'il est très agité, a dit ce bon aïeul qui, lui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'était pas agité du tout. Sa contenance et son humeur ne me plaisent pas et je ne sais pas ce qu'il pourra devenir avec le temps, aurait déclaré le grand ancêtre. Et voilà comment nous le décrit Brantôme. Vous savez que je cite toujours Brantôme avec quelques scrupules parce que tout ce qu'il raconte n'est pas parole d'évangile. Mais enfin tout de même, Don Carlos était un terrible mâle, un peu fou, un peu mal tourné, dit Brantôme, brutal et même barbare envers les femmes, mais qui avec l'âge aurait pu régler ses passions, mettre du plomb dans sa cervelle et devenir un glorieux monarque. Malgré ce tempérament tumultueux, le prince se voit proposer d'extraordinaires parties en Europe et on va voir que c'est justement la question de ce mariage qui va achever de tout dérégler. Ooh.
Un extrait de Don Carlos de Giuseppe Verdi sur Europe 1. Et on vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Don Carlos, fils du roi Philippe II d'Espagne.
On lui aura proposé toutes les princesses bonnes à marier. Marguerite de France, la fille de Catherine de Médicis. Anne de Bohème, la fille de l'empereur Maximilien. Marie Stuart, puisque Marie Stuart a même été quasiment fiancée avec lui. Il faut dire qu'elle-même cherchait un époux catholique pour essayer de contenir la poussée protestante dans son petit roi. D'Écosse. Et puis Jeanne d'Autriche, sa propre tante, vous imaginez quand je vous parle de consanguinité, mais où est-ce qu'on va aller, jusqu'où comme ça? Et puis se présente le projet qui d'emblée va séduire l'infant, c'est Élisabeth de France, la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Ça, c'est un projet qui lui plaît tout de suite. Alors il demande un portrait, vous savez, c'est comme ça qu'on procédait à l'époque, on demandait à des portraitistes d'aller brosser le portrait de la jeune promise, et il tombe amoureux littéralement du portrait. Il était admis depuis longtemps que, une fois marié, le jeune prince se délivrerait de la tutelle paternelle, bien entendu, et qu'il pourrait enfin agir à sa guise, car il avait constamment le sentiment d'être dans un carcan. Et le fantasme de la princesse et la perspective de se libérer, de s'émanciper grâce au mariage vont le rendre fou de ce projet. Il attend ce mariage beaucoup. Philippe II, lui, est quand même beaucoup plus dubitatif. Il se méfie de son fils et il doute beaucoup de ses capacités. Or, en 1558, la deuxième épouse de Philippe II, la fameuse Marie la Sanglante, Mary Tudor, dont nous parlions l'autre jour, Mary Tudor vient à mourir. Et le roi a besoin d'une nouvelle compagne. Il cherche à épouser une princesse anglaise. Enfin, tout ça est un peu compliqué. Et finalement, il va jeter son dévolu sur Élisabeth de Valois, sur Élisabeth de France, sur celle qui était promise à son fils. Vous imaginez? Alors elle a 14 ans, cette petite princesse. Le père, enfin Philippe II, en a 34. Mais le mariage n'en est pas moins célébré, comme on procède à cette époque, par procuration en 1559. À la cour d'Espagne, ce sont des fêtes extraordinaires, mais vous imaginez? Dans la chambre de l'infant Don Carlos, ça n'est pas la fête du tout. Il est désespéré, ce jeune homme. Il a le sentiment que son père l'a proprement trahi, lui a volé sa promise. Voilà ce que nous dit Saint-Réal. Il dit que le prince aurait adulé sa belle-mère depuis le jour où elle lui avait été promise. Don Carlos fut d'abord assez maître de lui pour empêcher que personne ne pût connaître la douleur que cette détermination lui causa, dit-il. Mais la violence qu'il se fit lui coûta cher quand il fut seul. Tout ce que l'amour et la rage peuvent inspirer lui passa dans l'esprit. Insensiblement, il est vrai, son désespoir se changea en mélancolie, mais il mena une vie retirée qui le rendit odieux au roi son père, parce que Philippe II, jugeant de son fils par lui-même, attribua le changement de ce jeune prince à quelque impatience de régner. Il est vrai que Philippe II avait été très heureux de voir son père, Charles, abdiquer en sa faveur. Il l'avait même poussé à cette abdication. Donc, pour Saint-Réal, nul doute que c'est ce projet de mariage et ce mariage du père avec la promise du fils qui a provoqué ce qu'il va bien falloir commencer par appeler la folie de Don Carlos. Il faut dire que les deux jeunes gens avaient le même âge. Il est évident que la reine aurait sans doute préféré épouser un jeune homme, mais en même temps, quand on sait le caractère du jeune homme en question, il est peut-être préférable qu'elle ait épousé le père. La seule certitude, c'est que tout au long de sa vie, elle va se montrer d'une très grande bonté envers son beau-fils. Quoi qu'il en soit, il est certain que ce retournement de situation a complètement chamboulé l'esprit du prince. D'un coup, c'est terrible pour lui, c'est qu'il perd en même temps son épouse, la confiance qu'il avait dans son père tout de même, et puis la possibilité d'aller régner sur les Pays-Bas, ce qui aurait été le cas s'il s'était marié. Alors, il va avoir un lot de consolation, si l'on peut dire. Pour calmer son orgueil, on organise un mois plus tard une somptueuse cérémonie en son honneur. Les Cortés de Castille, qui est un petit peu l'équivalent des états généraux français à l'époque, vont reconnaître officiellement Don Carlos comme héritier du trône. Alors on organise une grande cérémonie dans la cathédrale de Tolède. Don Carlos se présente paré de ses plus riches atours sur un cheval blanc magnifiquement caparaçonné. 6 heures durant grands, on va tous les grands d'Espagne, tous les corps constitués, tout le corps diplomatique va défiler devant l'infant pour lui baiser la main. Bref, il est très heureux de ça, évidemment. Il est rempli d'orgueil, Don Carlos, mais on se demande si, à la limite, cette cérémonie supplémentaire n'a pas ajouté un peu à son déséquilibre. Il va lui falloir plusieurs jours pour se remettre des émotions qu'il a ressenties au cours de la fameuse journée de gloire. Et en avril 1562, et c'est là que nous en arrivons à l'énigme historique, si je puis dire, en avril 1562, il va faire une chute dans un escalier du palais. Comme par hasard, c'est un très grand escalier en marbre. Il se blesse en tombant, la chute n'en finit pas, il s'est blessé à deux reprises au crâne, sa blessure d'ailleurs va s'infecter, il va souffrir de diverses hémorragies, il faut l'imaginer saignant du nez en permanence, il est pris de frissons, de fièvre, il est terriblement affaibli, et son père, qui était en voyage, rentre en Espagne pour veiller son fils qui se trouve entre la vie et la mort. Il fait venir tous les médecins qu'on peut imaginer, et Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte, elle nous dit: l'infection est telle que Don Carlos perd un moment la vue. On commence à trépaner le jeune prince, puis on renonce, le croyant perdu. On va jusqu'à déterrer la sainte dépouille du bienheureux Don Diego pour pouvoir la mettre dans la chambre, près du lit. Des moines ont même raconté qu'on avait placé le cadavre du saint directement dans le lit de Don Carlos. Je ne suis pas persuadé que ça ait beaucoup aidé à guérir son infection, cette histoire. Bref, on multiplie les purges, les saignées sur ce patient déjà tellement faible. Pendant plusieurs semaines, son père va rester là, à son chevet, priant pour le rétablissement de son unique héritier. En vain.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire, et quand vous le souhaitez, chers auditeurs, vous pouvez réagir. Il y a la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH. On vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et nous continuerons de parler avec vous, Franck Ferrand, du roi Philippe II d'Espagne et de ses relations avec son fils, Don Carlos.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur du royaume d'Espagne, cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez le destin funeste de Don Carlos, fils du roi Philippe II.
Alors, après cette chute dans l'escalier, il va mettre 2 mois tout de même, Don Carlos, à reprendre peu à peu ses forces. Il sort néanmoins de l'état de prostration quasiment comateux dans lequel il se trouvait, au grand soulagement de la cour, bien entendu. Le prince est sauvé. Oui, son esprit, lui, ne l'est pas. Il a l'air plus dément que jamais. Alors maintenant, il multiplie les accès de fureur. Un jour, par exemple, on tente de... vous savez, on lui a apporté des bottes qui avaient été spécialement confectionnées pour lui. Alors, il tente de les chausser. Il réalise qu'ils ne sont pas tout à fait ajustés. Les bottes sont trop petites, en quelque sorte. Il est pris, à ce moment-là, d'une fureur incroyable. Il cherche un moyen de punir le chausseur. Et alors... parce que dans ce moment-là, il ne manque jamais de ressources, ce jeune homme, il se décide finalement à faire couper les bottes en lamelles, à les faire revenir à la poêle et à les faire ingurgiter une par une, enfin lamelle après lamelle, au pauvre artisan, vous imaginez. Voilà ce qu'a déclaré Philippe II. « Bien que mon fils ait maintenant 19 ans accompli et qu'on ait vu avant lui des jeunes gens arriérés, Dieu a voulu qu'il le fût plus qu'un autre. » Et pendant longtemps... le roi a vu en son fils un rebelle, il a vu un personnage instable, plutôt qu'un fou réellement. Et puis là, quand même, il révise son jugement et en 1564, il le déshérite carrément au profit de ses neveux Rodolphe et Ernest de Habsbourg. Don Carlos est saisi par cette nouvelle. Il refuse absolument cette disgrâce, et d'autant plus que son père retarde le mariage qui était prévu avec la fille de l'empereur du Saint-Empire, avec l'empereur Maximilien, ce qui fait qu'il ne pourra toujours pas régner sur les Pays-Bas. C'est ça le but de Philippe II, c'est d'essayer de faire en sorte que son fils n'aille pas régner sur les Pays-Bas. Bref, la rupture entre le père et le fils est définitivement consommée. En juillet 1566, il se trouve que le roi doit partir pour Bruxelles, pour aller mater une rébellion protestante, et il envisage dans un premier temps d'inclure son fils au voyage, seulement il se ravise. Et le fils, lui, était convaincu qu'il allait partir, et donc quand le duc d'Albe vient lui annoncer la nouvelle, il se jette littéralement sur lui avec un poignard. Enfin, vous imaginez. imaginer. En 1565, il va faire une première tentative de fugue vers les Flandres, tentative qui échoue complètement, mais il va désormais avoir cette espèce d'idée fixe, s'évader, parce qu'on le tient de plus en plus tenu et de plus en plus détenu, et on le tient enfermé. Il va vouloir se sauver. Alors, attention, parce qu'à côté de ça, bien entendu, ses décisions sont tellement erratiques qu'il est criblé de dettes. Alors, il va frapper à toutes les portes pour réunir une somme nécessaire à monter, à organiser sa fuite et son départ pour les Flandres. Tout ça prend des proportions incroyables. On essaie de le dissuader, absolument sans aucun succès. On prévient le roi, bien entendu, qui passait Noël à l'Escurial, donc pas très loin de Madrid. Le roi ne sait vraiment plus quoi faire. Il réalise que si son fils venait à rejoindre une province qui par ailleurs est totalement en proie aux révoltes, alors ça pourrait être très dangereux. Vous imaginez la situation de ce père qui voit son fils devenir son pire ennemi, la proie de ce qui a l'air d'être un véritable démon. Le 25 janvier, le départ de l'enfant approche, les chevaux sont prêts, tous les complices, si je puis dire, attendent la décision du prince, qui veut tenter une dernière fois de convaincre son oncle de se joindre à lui, mais comme l'oncle ne veut pas du tout, il s'impatiente et sort encore son épée. Le prince, plein de rage, littéralement ivre de colère, décide de se reposer néanmoins avant de prendre une décision. Et là, vraiment, le roi Philippe doit intervenir. Il se rend à l'improviste dans la chambre de son fils. Il est là avec une dizaine de gardes. La scène avait été répétée à l'avance. Les serviteurs s'emparent de toutes les armes disponibles. Il y en avait pas mal dans la pièce. On confisque à l'infant ses papiers, son argent. Une poignée des gardes qui étaient là vont se mettre à la porte, à l'issue. On commence à barricader les fenêtres. Et là, l'infant se dit, Don Carlos se dit, mais cette fois je suis carrément prisonnier. Il tente de se jeter dans le feu pour se suicider. On arrive à l'extraire du foyer. Qu'y a-t-il ? Demande-t-il à son père. Votre Majesté veut-elle me tuer ou bien m'empoisonner ? Ni l'un ni l'autre, répond le roi. Calmez-vous, nous ne faisons tout cela que pour votre bien. Sauf que Don Carlos ne veut rien entendre. Il hurle, son père tente de l'apaiser. Il ne veut pas le traiter comme un rebelle. Il a bien compris désormais qu'il s'agit d'un malade. On essaie de lui parler avec douceur, on se relaie à son chevet, on a été obligé de l'attacher carrément dans son lit. Vous imaginez, Philippe II va faire part à son beau-frère Maximilien d'une décision terrible. Il dit, cette réclusion n'est pas un moyen tenté pour le corriger, car de le corriger, il n'y a plus d'espoir, étant donné que ses défauts procèdent de sa nature et sont allés en augmentant avec l'âge. Cette réclusion n'est là que pour le protéger, dit-on. Une décision qui a été prise par le père, sans doute, mais sûrement davantage encore en Philippe II, par le roi lui-même. Une décision qui, à terme, va avoir de fatales conséquences. Clémentine Portier-Kaltenbach est ici. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce livre est passionnant. Ce chapitre peut-être davantage encore. Nous allons le clore en votre compagnie dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Les rapports fatals entre le roi d'Espagne Philippe II et son fils Don Carlos sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, la journaliste et historienne Clémentine Portier-Kaltenbach, auteur du livre « Embrouille familiale de l'histoire de France » qui vient de paraître aux éditions J.C. Lattès.
Et l'on entend en tapis, comme on dit dans le métier, quelques mesures de Don Carlos. Et c'est Brigitte qui nous dit via Facebook, elle nous dit « Ah vraiment, j'imaginais Don Carlos sous les traits du beau Jonas Kaufmann ». Évidemment, le chanteur, c'est pas tout à fait le cas, hein, Clémentine. Il était pas beau du tout, en vérité.
Il était très très laid. On a d'ailleurs sa description par Mérimée qui ont dit « Ce qui frappe, c'est la triste tournure du modèle ». Ses épaules voûtées, sa taille penchée, son expression mélancolique. Alors, vous l'avez déjà habillé pour l'hiver, Franck, mais il semblerait qu'en plus, le malheureux Don Carlos ait été bossu. Il avait une jambe plus courte que l'autre et une voix aigrelette. Et alors après, évidemment, sa chute dans l'escalier, tout ça ne s'est guère arrangé. Mais nous le retrouvons enfermé dans sa chambre,
et ce
malheureux.
Et depuis le 25 janvier 1568, il est même carrément interdit de prononcer son nom à la cour. Pas oublier qu'on est dans la cour d'Espagne où le tabou est presque un sport national. Hein,
il est devenu un prisonnier d'État. Et d'ailleurs, le niveau de haine entre père et fils était tel que l'aumônier, le confesseur de Don Carlos, refusait de lui donner l'absolution. Et les témoins disaient que lorsqu'ils se croisaient, ces deux-là, père et fils, une lueur de haine venait illuminer le regard de Don Carlos.
Est-ce que cette haine n'était pas partagée par un Philippe II qui avait été atrocement déçu dans ses espoirs de père et de roi? Il avait en ce Don Carlos exactement l'héritier dont il ne voulait pas et dont il ne pouvait, s'accommoder.
C'est tout à fait ça. Sans doute aussi a-t-il considéré qu'il avait une part de responsabilité dans le déséquilibre de son fils. Et c'est un fait. Hein. Après tout, Don Carlos n'a quasiment jamais vu son père pendant 14 ans. Il est un petit peu à ce titre comme Charles VIII et son père Louis XI. Ils ont été totalement laissés, abandonnés par leur père.
Alors, la réclusion totale de l'infant Don Carlos, c'est janvier 1568. Or, le 24 juillet suivant, il meurt dans sa chambre. Il n'avait que 23 ans. Que s'est-il passé? Alors là, on a tout imaginé. On a dit qu'il s'était suicidé en avalant une bague. Il faut imaginer ce qu'étaient les grosses bagues de l'époque. C'est pas un petit anneau, bien entendu. Hein. On a dit qu'il avait été étouffé sous ses oreillers.
Étouffé sous ses découssins, nous dit Brantôme, vous aimez tant, Franck. Oui. Ou qu'il fut empoisonné. Alors, allez savoir pourquoi, au moyen d'un pâté en croûte. Bon, pourquoi pas. Ou alors encore...
C'est pas une très jolie mort.
Meurt empoisonné au pâté en croûte. Oh, écoutez, il y a pire tout de même. Ou alors, simplement qu'il fit une grève de la faim.
Oui. C'est-à-dire qu'il se serait laissé mourir. Mais à la limite, même s'il ne s'est pas physiquement laissé mourir et même s'il n'est pas allé jusqu'à la grève de la faim, on peut imaginer que psychiquement, ce soit ça. C'est-à-dire qu'on lui aura quand même... C'est vrai qu'il était bizarre. Hein, il était cruel, on l'a vu. L'épisode des écuries est épouvantable, pourtant, si tant est qu'il soit authentique, parce que aussi, il faut faire la part de la légende.
Alors
dans
vous
tout
savez,
ça.
De la part des princes rebelles, hein, les jeunes princes sont comme n'importe quel ado. C'est pas parce que papa est roi que l'adolescence est plus facile. Et d'ailleurs, Louis XI fera la même chose dans les écuries de Charles VII. Alors il ne va pas, comme Don Carlos, prendre un rasoir et lacérer ses malheureuses bêtes, mais il coupe la queue de tous les chevaux de son père parce qu'il est furieux. Il vient de donner une claque à sa belle-mère, la belle Agnès Sorel, et donc il dit à qui veut l'entendre, j'écourte ces chevaux comme mon père était courté. En gros, mon père est impuissant et moi je vais en faire pareil.
Ouais.
Donc les ados ne sont pas toujours faciles à vivre. Hein.
Alors, on va venir justement dans un instant à Charles VII et à Louis XI. Un mot quand même de la culpabilité ou de la responsabilité éventuelle de Philippe II. Est-ce que le roi Philippe a tué ou fait tuer son fils, Don Carlos, d'après vous?
Écoutez, moi je pense que de tous les mauvais pères que j'ai épinglés dans ce livre, il s'en trouve un certain nombre de Français, puisqu'il faut d'abord, aller...
C'est surtout l'histoire de France.
Cultiver notre jardin, naturellement. C'est vrai que le cas de Philippe II et Don Carlos est assez exceptionnel. Voilà pourquoi je voulais quand même en faire état. Ce sont ces pères terribles, comme d'ailleurs Ivan le Terrible, qui lui-même tue son fils de ses propres mains, pour le coup, ou Suleyman le Magnifique, qui le fait étrangler. Mais il a une part de responsabilité, bien sûr, dans la fin de son fils. Mais clairement, il a un certain nombre de circonstances atténuantes, clairement, dès les origines. Vous parliez de consanguinité. Oui, vous et moi, nous avons 8 arrière-grands-parents. Le malheureux Don Carlos n'en a que 4. Enfin, il a quand même un patrimoine génétique un peu plombé, si je puis me permettre l'expression. Et très vite, on se rend compte que ça ne va pas. Songez que, d'ailleurs, la responsabilité, elle se trouve également ailleurs. Pensez à Charles IX, fils de Catherine de Médicis, très jeune. On le fait assister à des exécutions capitales à Tir-Larigot. Et le malheureux Don Carlos...
Cette chose horrible, ce qu'on a appelé la conjuration d'Amboise, hein, qui a été un bain de sang absolument inouï.
Bien sûr, alors pour un jeune homme de 13-14 ans, assister à ça, Don Carlos à 14 ans, il passe 10 heures à assister à des pendaisons et à des bûchers. Mais c'est horrible. Alors sur une psychologie,
une nature déjà faible
au départ, évidemment, ça crée des ravages. Donc il y a une forme de responsabilité. Maintenant, c'est ce que je trouve très amusant malgré tout dans cette histoire, c'est que finalement c'est à Don Carlos que la postérité a tressé des couronnes. Et alors il passe vraiment pour le champion de la liberté religieuse soumis au joug d'un père absolument terrible. Bon, la vérité, comme dans toutes les histoires de famille, je crois que c'est, il faut se le dire une bonne fois pour toutes, la vérité est au milieu du guet.
Oui, c'est très complexe, bien sûr. Alors, on parle beaucoup, évidemment, en ce moment, d'une affaire de famille. C'est un nouveau chapitre de l'histoire de France que vous n'avez pas écrit, ça, Clémentine Portier-Kaltenbach. Et j'ai choisi, alors ça n'a rien à voir, je tiens à le préciser, parce qu'on avait choisi cette émission avant que ne commence toute cette histoire, mais j'ai choisi de me concentrer sur les pères indignes aujourd'hui. Ça n'est pas le seul sujet que vous évoquez dans les embrouilles familiales de l'histoire de France, loin de là. Hein.
Loin s'en faut, c'est un jeu des sept familles, en fait, ces embrouilles familiales.
Donc, je demande, dites-vous à chaque fois.
Voilà, je demande les tontons flingueurs, voilà. Chez qui le fait d'appartenir à une même famille est un critère discriminant de raccourcissement, si j'ose dire, de l'espérance de vie. Il y a donc ces pères indignes, en effet, les mères abusives, qui sont
assez nombreuses,
qui ne sont pas tristes. Ensuite, nous avons les frères ennemis, où ils sont nombreux également dans l'histoire de France. Et puis, d'ailleurs, cet auteur qui dit rêver que tous les hommes soient frères est le rêve de ceux qui n'ont pas de frères, en somme. Donc, c'est assez agressif aussi. Et puis, nous avons une famille démon de midi et famille recomposée. Et puis, Bonne Pioche. Et alors, Bonne Pioche,
là, ça nous ramène vers notre sujet. Hein.
Parce que dans Bonne Pioche se trouvent les exemples familiaux les plus étonnants de notre histoire. Et en effet, Franck, il y a une rubrique « Le plus mauvais père de l'histoire ». Je suis allé à sa recherche et trouvé quelques exemples croquignolés.
Oui, bon, il y en a un qu'on connaît bien et que nous avons évoqué d'ailleurs à ce même micro il y a quelque temps, puisque c'était l'année, c'était le 250e anniversaire, c'est Jean-Jacques Rousseau. Bon, ça, bien entendu. Bon,
oui.
Lui, dans la série Mauvais Père, on va peut-être pas s'apesantir, enfin, un mot peut-être, si vous voulez, vous allez lui régler son compte.
Oui,
vous
alors lui, il est vraiment très drôle parce que c'est vrai que lorsque il parle de. Alors, il abandonne ses 5 enfants à l'assistance publique, c'est quand même déjà gratiné, mais non content d'abandonner ses enfants, il écrit l'Émile. Et l'Émile, qu'est-ce d'autre qu'un traité d'éducation dans lequel il administre des leçons d'éducation des enfants, alors même que lui-même n'a pas élevé un seul des 5 qu'il a eu.
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que
alors,
je fais.
Chez Rousseau, ça prend quand même des proportions.
Mais alors, il y a un père auquel on s'attendait moins, et moi je vous avoue que je n'avais pas conscience avant de vous lire de tous ses vices et de toutes ses tares. C'est La Fontaine.
Oui, ça m'amuse bien parce que c'est vrai que La Fontaine, il est tellement sympathique, on l'aime.
On l'aime,
notre La Fontaine. On voudrait qu'il ait été vraiment uniquement bien, un gars bien. Ben non, pour son fils, ça n'a vraiment pas été un homme bien. Il a eu un fils unique de son mariage avec Marie et Ricard. Mariage tout à fait catastrophique, il n'était pas fait pour se marier. D'abord parce qu'il était absolument incapable d'être fidèle, donc il trompait sa femme à tour de bras. C'est son père qui lui a imposé ce mariage parce que Marie et Ricard avaient une jolie dot, mais lui était un rêveur, un distrait. Enfin, il n'était pas fait pour ça. Il aimait bagnoder, il aimait traîner, il aimait rêvasser. Enfin, c'était tout sauf un homme à marier, La Fontaine. Alors, il fait cet enfant. Et cet enfant va être baptisé à Reims. Il a pour parrain un certain Maucroix. Et Maucroix sera le véritable père de Charles. Parce que La Fontaine, non seulement ne s'occupe pas de son fils, il continue ses venues entre Château-Thierry, Reims et Paris. Enfin, il n'en a absolument rien à faire, au point que les anecdotes qui portent sur les relations ou les non-relations de La Fontaine avec son fils font état d'un ou deux dîners dans lesquels il croise un jeune homme et à la sortie du dîner, il dit « Oh, mais ce garçon était fort sympathique et intéressant, mais de qui s'agit-il ? Mais enfin, voyons, mais c'est votre fils, monsieur. Ah oui, ah bon, mais bon, il a l'air sympathique, alors, effectivement. »
Vous dites « Il n'était pas un mauvais père ». Non, il n'était pas un père du tout.
Il ne fut pas un père du tout, donc très mauvais père, La Fontaine. Oui, c'est un peu décevant. Mais
à la même époque, alors là, je suis moins d'accord avec vous. Vous nous casez dans la rubrique mauvais père notre cher Louis XIV, dont vous dites qu'il n'a pas été un bon père avec le grand dauphin. En fait.
Je ne sais pas ce qu'il vous faut, Franck. Le malheureux grand dauphin le plus long delphinat de l'histoire de France. 49 ans.
Il a été fils de roi, père de roi et jamais roi lui-même.
49 ans dans l'ombre de Louis XIV. Vous imaginez ça, le pauvre gars. D'ailleurs, ce n'est pas simplement moi qui dit que c'est... Le résultat éducatif est catastrophique. Hein. Il n'y a quand même pas de personnage qui soit étrillé de façon aussi cruelle que le grand dauphin par Saint-Simon.
Oui, mais parce
c'est
que là, pour des raisons politiques. Hein. Oh, bah, Saint-Simon était le partisan des grands ennemis du dauphin. Donc,
et ce qui est très drôle, c'est aussi la façon dont en parle André Castelot quand il décrit le malheureux grand dauphin que son papa se décide enfin à associer au conseil. Alors, il y vient traînant les pieds, là, vraiment n'ayant aucune envie de s'y rendre, il n'a rien. rien à dire, il n'ose pas prendre la parole. Alors, il a sa canne et il tapote sur le bout de son soulier pendant tout le conseil. Et alors, de temps en temps, son papa doit lui dire « Alors, mon fils, avez-vous quelque chose à dire ?» Et non, parce que le malheureux grand dauphin, il est comme tous ses fils qui ont été écrasés par des papas. Bon, ça a été le cas de presque tous les rois de France. Mais enfin, Philippe II était un roi écrasant, Louis XIV aussi. Et puis, il y a des exemples extraordinaires. Et la caractéristique commune de tous ces princes, c'est qu'ils essaient de fuguer et de fuir leur papa.
Ah oui, les pauvres,
crise d'ado des princes d'Europe.
Ils se réfugient partout où ils peuvent, en fait. Dans la famille des pères indignes, je demande François Ier dans un instant.
Europa. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Des pères indignes au cœur des plus sombres conflits familiaux de l'histoire. Votre invité, Franck Ferrand, la journaliste et historienne Clémentine Portier-Kaltenbach, auteur du film, du livre.
Le film, ça va bientôt faire un film, je vous rassure.
On l'espère. Embrouilles familiales de l'histoire de France, chez J.C. Lattès.
Ces embrouilles familiales vont sans doute réjouir nos auditeurs et vos lecteurs, Clémentine, parce que, évidemment, ça fait penser à toutes les embrouilles qui existent dans nos familles, plus, alors à des degrés là très très poussés, hein, puisque vous n'avez choisi que ce qu'il y avait de terrible. Mais enfin quand même, ça fait penser aux autres familles, c'est ça. C'est que toutes ces familles de l'histoire de France, elles ne sont jamais que des familles parmi d'autres, il faut pas l'oublier.
C'est un petit peu l'objectif, si vous voulez, c'est d'aller chercher dans l'histoire des exemples si croquignolets qu'ils nous feront les uns les autres relativiser nos propres problèmes de famille. Je voudrais juste une petite parenthèse, rappeler que le mot détester, parce qu'en famille, oui, alors on se haït souvent cordialement, eh bien le mot détester, son étymologie latine est détestare, c'est-à-dire déshériter. Je te rais de ma succession.
Sortir de son testament.
Renie, je te sors de mon testament et pour moi tu n'existes plus. Et vous faisiez allusion à l'actualité brûlante, Franck, et de fait, Jean-Marie Le Pen conteste à sa fille le droit de porter son nom. On va retrouver ça mais N fois dans l'histoire de France. Catherine de Médicis, dans son testament, déshérite sa fille Margot qui n'est jamais nommée une seule fois.
Incroyable.
Simplement, ça lui est totalement égal. Elle l'a oublié.
Une damnatio memoriae.
Alors ça, c'est extrêmement courant. Les pères qui, sur leur lit de mort, font tenir des grandes promesses à leurs enfants. Alors tu garderas tel et tel conseiller, naturellement. Mais oui, papa. Et on s'empresse immédiatement de revenir sur des grandes paroles qui ont été tenues sur le lit de mort des papas.
Vous comprendrez, Clémentine, que je ne puisse parler des pères indignes sans réserver une place de choix à celui qui a été ma cible au cours de l'année passée, c'est-à-dire à François Ier, qui alors dans la série Mauvais Père se pose là, lui quand même.
Vous faites bien, Franck, parce que je partage totalement votre indignation, en tout cas sur son attitude en tant que père, c'est-à-dire grand roi munificent, oui, que si français qui a su porter si haut l'art de célébrer la vie, et je pense que c'est pour ça que nous aimons tendre François Ier, mais en même temps sur le plan familial, ouh là 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 là, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul, déjà Voltaire l'épinglait en disant mais qu'est-ce que c'est que ce roi qui échangea sa liberté contre celle de ses fils. Et oui, pendant 4 ans, les deux malheureux enfants,
François et Henri,
vont être en captivité en Espagne dans des conditions extrêmement dures pendant que leur papa ripaille et festoie avec sa nouvelle maîtresse Anne de Pisseleu. Alors tout ça n'est pas joli joli, d'autant que lorsqu'il s'était agi de trouver dans le trésor du royaume de France de quoi payer sa candidature au Saint-Empire romain. Alors là, on avait envoyé des chariots d'or, en veux-tu, en voilà. Et puis quand il s'est agi de payer la rançon, d'abandonner la Bourgogne, il y avait certes des conditions tout à fait exorbitantes à ce traité. Mais enfin, il a quand même laissé ses enfants 4 ans dans les geôles espagnoles, au point qu'au moment où ils sont rentrés en France, ils ne parlaient plus. Ils ne parlaient plus français, ils ne parlaient plus que l'espagnol, pauvres gamins.
Absolument incroyable. Et le deuxième, parce que le premier va mourir en 1536, à la suite de ce jeu de paume, là on connaît cette histoire. Le père d'ailleurs va se révéler inconsolable de la mort de son fils aîné. Et c'est comme s'il l'en faisait, comme s'il le faisait payer cela à son fils cadet, Henri, qui va devenir l'objet de sa détestation, pour reprendre le mot.
Extraordinaire. C'est-à-dire vraiment, dans ce cas-là, on a le cas terrible d'un père qui chouchoute de façon mais abusive son fils aîné, dans lequel il se revoit, qui lui ressemble, qui a été moins traumatisé par la captivité probablement que le futur Henri II. Henri II plutôt grognon, taciturne, mais attends, ces deux enfants, ils ont perdu leur mère, la reine Claude, à 5 ans, et vers 6, 7, 8 ans, on les envoie en Espagne pendant 4 ans. Alors évidemment, il y a de quoi être un petit peu renfermé. Mais François Ier, véritablement, c'est là sa grande responsabilité. Il a tellement misé exclusivement sur l'aîné, qui s'appelle François comme lui, dont le pape est le parrain, alors rien n'est trop beau pour lui, au point d'ailleurs qu'il va spolier Henri du duché de Bretagne qui lui revenait par sa mère. Il le fait adopter par le roi de Hongrie. Alors le malheureux Henri, son destin, c'était d'abord d'être spolié du duché de Bretagne, d'épouser une banquière espagnole, Catherine de Médicis, qui vient avec ses terres italiennes, une princesse italienne, excusez-moi bien sûr.
Oui, oui.
Et ensuite, il le fait adopter par le roi de Hongrie, donc il était amené à devenir roi de Hongrie, partir dans ce pays dont il ne connaissait ni la langue, ni quiconque, ni d'élèves, ni d'aidants.
Il va faire pire, François Ier, puisqu'il va, carrément miser sur la victoire des armées ennemies pour que cette victoire ne revienne pas à son propre fils Henri. Il faut vraiment aller
oui,
loin.
C'est vraiment terrible. Et puis alors, surtout, ça va se porter ensuite sur la génération suivante. C'est-à-dire que quand, enfin, après 10 ans de mariage avec Catherine de Médicis, Henri, qui sera finalement roi, et oui, mauvaise pioche, c'était pas le chouchou, mais ce sera lui. D'ailleurs, il porte pas un roi de France, il s'appelle Henri, comme son parrain, Henri VIII. Mauvaise pioche, tant pis, ça sera lui le roi. Il faudra bien s'y faire. Mais quand enfin il arrive à avoir un fils, comment s'appelle le fils? François. Qui est son parrain? François. À qui donne-t-on le duché de Bretagne? À François. Tout à l'avenant, c'est-à-dire que là, oui, finalement, le prince attendu, il est mort, mauvaise pioche, mais voici, ce sera celui-là, ce sera lui, François, le temps des âges nouveaux et de cet âge d'or que tout le monde espère en France.
Alors, il y avait eu parmi les tout premiers capétiens déjà un Henri, le Henri Ier, hein, évidemment, quand même. Mais Henri Ier, père de Philippe Ier, qui donc était déjà un roi de France. Mais pour nous rassurer un peu, nous allons aller voir ce qui se passe hors de France. Là, c'est terrible, parce que là, on est sur des pères criminels. Vous avez fait allusion à Soliman le Magnifique tout à l'heure. Parlons peut-être d'Ivan le Terrible, par exemple.
Oui, parce qu'évidemment, si vous voulez, moi je cherche autant que faire se peut, parce que vous me connaissez, Franck, je suis extrêmement chauvine. Donc je cherche à édulcorer les cas de figure français pour aller mieux épingler nos voisins, les étrangers pas de chez nous, comme dit AG Canonix dans Astérix et Obélix. Donc oui, bien sûr, le plus terrible, le saint patron des pères indignes, naturellement, c'est Ivan le Terrible, parce que dans la famille Terrible, on a le sang chaud. Et alors, il a un fils qu'il aime tendrement et qui est son complice d'orgies et de séances de torture. Ce sont deux pervers. Hein. Et c'est le paradoxe de ce grand prince moscovite, qui est le premier à porter le titre de tsar et qui règnera pendant 37 ans, qui va mener à bien certaines réformes administratives et religieuses très importantes, mais qui est fondamentalement un pervers, un peu comme Don Carlos, qui est capable d'être saisi de crises de fureur absolument irrépressibles. Et alors, avec son fils, Ivan, il n'aime rien tant que d'aller torturer. Ça leur plaît beaucoup. Alors, il invente toutes sortes de choses, des poêles à frire géantes sur lesquelles ils font rôtir,
gens,
ils font
oui.
griller leurs victimes. Il organise des séances de décapitation. Enfin, et c'est vraiment, ça les excite. Ce sont deux pervers. Et un jour, malheureusement, le fils Ivan fils commet l'erreur de mettre en cause la façon dont son père est en train de mener sa guerre en Pologne. Alors Ivan le prend très très mal, il est totalement paranoïaque, il couve un peu, il ne dit rien, ne réagit pas dans un premier temps, et là il croise sa belle-fille dans les couloirs. Et la belle-fille, au lieu de porter les trois robes traditionnelles qui est censée porter une femme enceinte, elle n'en porte qu'une. Alors Ivan est pris de fureur et il se met à lui taper dessus. Il tape sur sa belle-fille qui fait une fausse couche. Le fils Ivan vient pleurnicher auprès de son père en disant « Enfin quand même, papa, je vous demande un peu, est-ce qu'on traite comme ça sa belle-fille ?» On imagine l'ambiance dans les repas de famille chez les Terribles le dimanche, ça ne devait pas être triste.
Chez les Terribles.
Et alors du coup, lui est absolument convaincu que son fils en veut à son trône, saisit son grand bâton ferré et se met à taper, à battre son fils sur les épaules, sur la tête, sur
le massacrer.
Il le massacre littéralement. Il est vraiment fou furieux.
Et ce sera la culpabilité du reste de ses jours, parce qu'il va totalement changer. Ivan le Terrible va devenir une sorte de moine couronné. par culpabilité.
Il ne manquait plus que ça. Alors, parce que après avoir tué son fils, il organise encore quelques petites séances de torture. Par exemple, il fait torturer un peu son beau-père en se disant bon, ça va peut-être me changer un peu les idées. Mais pas du tout. Il n'a plus goût à rien parce que, en fait, il aimait faire ça avec son fiston. Mais bon, il l'a tué. Et après, il fait faire le décompte de toutes ses victimes et il fait dire des prières. Il se ruine en prière pour les différentes personnes qu'il a trucidées. Et sa conclusion, c'est que finalement, Dieu et lui peuvent se comprendre, puisque Dieu, lui aussi, a sacrifié son fils unique.
Alors, il n'est pas le seul, Tsar, à avoir tué son fils, puisque Pierre le Grand en fera autant. Oui. Vous citez des cas absolument terribles. Et puis alors, il y a un cas qu'on cite rarement, et c'est très bien de l'avoir fait, c'est le père du Kaiser Guillaume II, hein, Frédéric Guillaume Ier de Prusse. Alors là, vous nous dites, c'est terrible, les humiliations iront très loin. Un jour, son père l'oblige à lui baiser les bottes devant des officiers. A-t-on idée d'humilier ainsi un prince devant ses futurs sujets? C'est une sorte de fou, quand même.
Nous, on a des pères merveilleux.
Moi, j'ai un père merveilleux.
Pas besoin de s'allonger sur un divan.
Oui, alors justement, c'est Jeanne qui nous demande via Facebook, serait-il possible de donner quelques exemples de bons pères afin de finir sur une note positive? Alors, on ne pourra pas en citer 50, mais il y en a beaucoup de bons pères dans l'histoire et de bonnes mères, etc. Il ne faudrait pas croire qu'il n'y a que des horreurs. On ne fait pas de littérature avec de bons sentiments. Oui. Il y a un bon père qu'on peut citer parce qu'il est toujours donné comme exemple de ce point de vue, c'est le roi Louis-Philippe, tout simplement, qui paraît-il était le meilleur et le plus attentionné de tous les papas.
Au cœur de l'histoire continue dans un instant sur Europe 1 et vous répondrez à la question de Fabrice Franck-Ferrand qui souhaiterait connaître l'origine des montagnes russes.
Mais non, pas du tout, ce n'est pas moi, c'est Clémentine qui va répondre à la question.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Alors Fabrice me demande via la page Facebook de l'émission, bonjour Franck, je voudrais savoir pourquoi on parle de montagnes russes et quand elles ont été inventées. Eh bien c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui va vous répondre, cher Fabrice.
Écoutez avec joie, alors en toute logique, eh bien les montagnes russes nous viennent de Russie, comme leur nom l'indique. Et oui, les Russes ont toujours adoré les sensations fortes et ils aimaient s'élancer du haut des montagnes et dévaler les pentes. Mais la montagne russe, l'objet en somme, est inventé plus tardivement au XVIe siècle et là on crée ces grandes rampes de bois sur lesquels on laisse couler de l'eau
et la surface
givrée permet de glisser. Elles peuvent être très, très spectaculaires, d'ailleurs jusqu'à 20 mètres de haut. En France, c'est bien plus tardif. Elles arrivent à Paris en 1804. Et évidemment, alors on manque un peu de neige dans la capitale déjà à l'époque. Et pour pouvoir, à longueur d'année, dévaler sur les pentes, eh bien, on cire les rampes. Hein, et puis, il y a des petits chariots à roulettes. C'est d'ailleurs extrêmement dangereux. Il y aura plusieurs accidents. Il y aura quelques accidents mortels avec les montagnes russes, notamment celle du jardin Beaujon. Et puis, on a installé aussi...
Oui, c'est l'époque où on a des espèces de petits parcs d'attractions partout dans Paris.
Oui, les Tivoli. Oui, c'est la grande mode. Ça. D'ailleurs, on fait ça. Il n'y a pas eu de montagne russe dans le jardin de l'Élysée, mais c'était ces endroits, des centres de loisirs. En somme, hein, comme les grands parcs aujourd'hui. Alors sachez bien sûr, information essentielle, que c'est en 1846 qu'est créé le premier looping sur les montagnes russes du jardin Frascati, boulevard Montmartre. Un looping de 4 mètres de diamètre, c'est pas la foire du trou.
Si je comprends bien, on a quand même la paternité de la chose. Hein. C'est très français au départ.
Oui, c'est vrai. Et sachez aussi, la prochaine fois que vous irez écouter un concert à l'Olympia, que l'Olympia, avant d'être une salle de spectacle, eh bien, était un lieu où avaient été installées des montagnes russes. Hein. J'avais fait une petite chronique sur ce thème que j'avais appelé « Ça s'en va et ça revient » parce que c'est quand même à l'Olympia que Claude François a fait ses débuts.
Pourquoi est-ce qu'on dit russe? Pourquoi les montagnes russes?
Parce qu'on a tout simplement pour rendre hommage à leurs inventeurs, non?
Oui,
non,
c'est ça, sans doute. Bah, oui. À partir du moment où c'était des Russes qui avaient lancé l'affaire, on appelle ça des montagnes russes. Eh bien, merci beaucoup, Clémentine.
Mais je vous en prie, c'est
grâce
un plaisir.
À vous, nous savons maintenant exactement à quoi nous en tenir. Il faudra que je généralise cette habitude de poser la question à nos invités lorsqu'ils sont capables, évidemment, d'y répondre. Pour tout vous dire, il y a quand même derrière une certaine Mathilde Salé de Choux qui travaille d'arrache-pied à nous trouver la documentation et à nous permettre d'avoir l'air incollable face à toutes les questions que nous posent chaque jour nos invités. Marion Ruggieri est arrivée. Bonjour Marion.
Bonjour Franck, vous allez bien?
Mais oui, très bien. Vous aussi, visiblement. Vous êtes radieuse aujourd'hui.
Oh bah je vous remercie. Je vois que vous avez du temps. Je vois que vous avez du temps à perdre. Non, je plaisante, Franck. aujourd'hui, un témoignage assez bouleversant. Comment se reconstruire quand on a touché le fond? Sommes-nous tous égaux face à l'addiction? Shit, cocaïne, héroïne, comment devient-on accro? Comment décrocher? Pour en parler, nous recevons Giovanna Valls, la sœur de Manuel Valls, qui publie un témoignage lumineux, accroché à la vie, journal d'une renaissance. Et puis nous serons rejoints également par le docteur Xavier Lacueil, chef du service d'addictologie à l'hôpital Sainte-Anne de Paris.
Merci beaucoup Marion. L'ouvrage qu'il ne faut pas manquer est publié chez Jean-Claude Lattès de Clémentine Portier-Altenbach, Embrouille familiale de l'histoire de France. Vous aurez compris que ça n'est pas triste et je vous dis à demain, chère Ombline.
À demain, Franck.